au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Dans l'émission Au fil des pages, nous avons quelquefois le plaisir d'inviter un éditeur ou un directeur de collection dans une maison d'édition, ou les deux à la fois, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir Michel Slatkin, éditeur, et Jean Pruvot, directeur de collection aux éditions Honoré Champion. Bonjour monsieur Slatkin.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir fait le voyage de Genève jusqu'à nous, car les éditions Slatkin ont leur siège à Genève et depuis fort longtemps, puisque c'est une maison qui a été fondée par votre grand-père en 1918. Alors, racontez-nous cette histoire.
Oui, tout à fait. C'est une histoire relativement curieuse, en ce sens que ma famille, mon grand-père dont vous venez de parler, fils d'un rabbin à Rostov sur le Don, a quitté la Russie en 1905 à la suite de pogroms incessants qui rendaient la vie des Juifs impossible sur place. Il avait fait des études pour devenir rabbin, mais il n'était pas devenu par manque de foi. Et il s'était occupé d'assurer le transport de marchandises, si bien qu'il a quitté la Russie en 5 avec une confortable fortune. On m'a articulé le chiffre d'un million de roubles. Je ne sais pas ce que ça signifie aujourd'hui, mais ça signifiait, je crois, énormément d'argent à l'époque. Il a pris la direction de Berlin, où heureusement il n'est pas resté, sinon je n'aurais pas le plaisir d'être en face de vous. Et il a envoyé ses trois fils à Genève pour poursuivre, notamment pour mon père, des études de médecine. Et puis il a rejoint la famille aux alentours de 1910 ou 11. Ils ont vécu très correctement jusqu'en 1914. Et en 14, la guerre a éclaté. Et la fortune de mon grand-père, qui était placée essentiellement en actions, en papier russe, s'est trouvée réduite non seulement à zéro, mais même pour pouvoir vivre, mon grand-père avait emprunté de l'argent à la banque, argent qu'il a dû rendre. Il m'en a toujours parlé, je me rappelle avec beaucoup d'émotion, il devait rendre à la fin de la guerre de 14-18 50 000 francs suisses à la banque. Et je me rappelle de sa réflexion, jamais n'emprunte un sou aux banques. Le jour où tu dois les rendre, ce n'est pas très facile, voire très difficile. Ce qui fait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, mon grand-père était totalement ruiné, n'avait plus rien pour vivre. Mon père a dû interrompre ses études de médecine et pour survivre avec sa femme et ses trois fils, ils avaient besoin à l'époque de 5 francs par jour pour vivre et ils ne les avaient pas. Et son moyen de les trouver, ça a été de vendre sa propre bibliothèque. Mon grand-père était un homme très érudit qui connaissait une trentaine de dialectes moyen-orientaux, qui avait une très belle bibliothèque orientale et la fondation de la librairie, c'est la vente de sa propre bibliothèque.
Voilà. Et vous avez gardé ces ouvrages de votre grand-père, je suppose, dans votre bibliothèque personnelle ?
Non, écoute, j'ai gardé uniquement la partie hébraïca, puisqu'après, il est mort assez âgé, à 92 ans, et il s'était surtout intéressé à la bibliographie hébraïque. Donc j'ai gardé une partie de cette bibliothèque. Malheureusement, j'ai appris l'hébreu quand j'avais entre 11 et 13 ans, mais je l'ai complètement perdu. Et je suis incapable de lire ces livres, mais je la garde effectivement par tradition familiale. Non, de sa propre bibliothèque, à part ceci, on n'a absolument rien gardé.
Donc, après la Première Guerre mondiale, c'est là que Michel Slatkin, c'est-à-dire votre père, lance véritablement la maison d'édition ?
Non, pas du tout, pas du tout. Donc mon grand-père vend sa bibliothèque et devient au fond, si on veut employer un terme relativement bouquiniste, si on veut employer un terme un peu plus élevé, libraire. Et au fond, il développe une librairie d'occasion, de livres d'occasion, de livres de documentation. Et mon père, Michel, qui arrête donc ses études de médecine, l'aide, mais fait en même temps un autre métier parce que toute la famille ne pouvait pas vivre de la librairie. C'était un métier relativement difficile et qui ne rapportait que peu d'argent. Donc, il s'occupait aussi commercialement d'une affaire de machine à écrire. Mais jusque donc au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une librairie d'occasion et ça continue à être une librairie d'occasion à laquelle j'ai commencé à participer à partir de 55 jusqu'à peu près en 65-68 où le domaine des rééditions s'est ouvert. On va en parler si vous le voulez, je vous montrerai comment on y est arrivé.
Oui, c'est une longue tradition genevoise au fond, à la fois l'édition et la librairie, ça a existé à Genève. J'allais dire de tout temps, au moins du temps de l'imprimerie.
Écoutez, oui, puisque Estienne donc, se réfugie à Genève, la grande famille des deux Tournes s'y trouve aussi, et puis on a une succession effectivement d'imprimeurs, donc Crespin, des gens de ce type, qui assurent une tradition de l'imprimerie à Genève, mais enfin qui est quand même beaucoup plus modeste que celle qui s'est développée aux Pays-Bas, évidemment, que celle de Paris. Mais il y a effectivement une tradition d'imprimeurs et d'éditeurs à Genève.
Elle existe toujours, cette tradition. Les éditions Michel Slatkin ne sont pas seules à Genève ou elles sont une exception encore?
Non, écoutez, je crois que la caractéristique de l'édition genevoise, disons depuis le XXe siècle, c'est au fond une myriade de petits imprimeurs, éditeurs, à part une ou deux grandes exceptions. Alors la plus grande exception, c'est évidemment Skira. Les éditions Skira qui se sont développées d'abord à Paris et puis à Genève et qui ont eu une renommée mondiale puisqu'au fond on disait souvent on ne va pas acheter un cadeau, on va acheter un Skira, ce qui était vraiment un beau cadeau qu'on faisait à la personne qu'on voulait honorer. Autrement, de grands éditeurs genevois, il n'y en a pratiquement jamais eu et j'estime avoir été un grand réimprimeur genevois, mais non pas un grand éditeur genevois. Nous faisons de l'édition, mais de l'édition patrimoniale ou régionale. Par contre, nous avons développé depuis une quinzaine d'années les éditions Champion, mais je me considère sur ce plan-là comme un éditeur français et non pas genevois.
Alors, en tant qu'éditeur genevois, justement, on dit toujours les éditions Michel Slatkin reprints, c'est-à-dire que vous faisiez essentiellement de la réédition ou de la réimpression. Quelle est la différence entre les deux?
Écoutez, c'est une très grande différence. Je vous raconte comment tout ça s'est passé. Je développe avec mon père un secteur d'ouvrages d'occasion, de philologie romane, de linguistique et de critique littéraire. Et à ce moment-là, on avait une spécialité en tant que libraire ancien, c'était de vendre aux Américains, au moment où ils en ont eu besoin, des grandes collections de périodiques. Une collection complète de l'École des Chartes, une collection complète de la Société des anciens textes français.
Pour leur bibliothèque, essentiellement.
Pour leur bibliothèque, ils étaient donc extrêmement demandeurs juste après la guerre. Et on avait de grands libraires américains, dont les deux plus connus sont d'une part Krauss, qui a été bien connu, qui a été un des rares derniers acheteurs d'un exemplaire de la Bible de Gutenberg qui a circulé dans le public, et puis un autre réimprimeur qui s'appelait Johnson. Et ces deux personnes venaient régulièrement en Europe auprès de tous les grands libraires, qu'ils soient français, suisses, allemands, hollandais, pour acheter des collections de périodiques dont les bibliothèques américaines avaient besoin. Et c'est au contact d'un de ces acheteurs américains que petit à petit, je me suis rendu compte que l'Amérique, à partir des années 65, avait développé ce nouveau procédé d'impression qui s'appelait l'offset. L'offset, c'est-à-dire qu'on pouvait non plus composer un livre comme on le faisait typographiquement parlant, mais on pouvait photographier une page et la reproduire par un procédé photographique, c'est-à-dire que l'encre, au lieu d'être pressé ou comprimé, circulait au milieu d'une d'eau qui permettait donc d'imprimer sans composer. Et ce nouveau procédé a permis de réimprimer et non pas de rééditer, je vais vous en donner un exemple qui je pense sera très éclairant, a permis de réimprimer tout un certain nombre d'ouvrages parmi les documents les plus importants. Alors, je vais vous parler du Larousse. Et ça fera sourire certainement M. Privot, qui est un bon connaisseur du Larousse. Le Larousse, donc le grand Larousse du XIXe siècle, publié dans la deuxième partie du XIXe siècle, comporte 15 volumes, un quarto, d'à peu près 2500 pages chacun, plus deux volumes de suppléments. Ce grand Larousse, qui a été édité et abondamment édité, est un instrument de travail qui est toujours, à mon avis, indispensable. Et les exemplaires d'occasion circulaient, mais circulaient relativement rarement sur le marché d'occasion. Et surtout, la consommation du Larousse était très grande. On dit toujours que la Bibliothèque nationale consommait, c'est-à-dire détruisait par utilisation, 3 exemplaires du Larousse par année. Donc, on cherchait à se procurer le Larousse et petit à petit, il disparaissait. Or, éditer le Larousse, c'est-à-dire le recomposer, ce sont des millions et des millions de signes, c'est strictement impossible. Par contre, à partir du moment où ce procédé de l'offset, donc de la photographie, a existé, on a pu réimprimer des livres et surtout les tirer à petit nombre d'exemplaires, puisque c'était déjà des livres qui avaient circulé, qui se trouvaient dans un certain nombre de bibliothèques, mais qui manquaient à d'autres. Et pour vous donner un chiffre, les premières réimpressions faites par les Américains dans les années 65 étaient tirées à peu près à 500 exemplaires. Les dernières réimpressions que nous avons faites ou que nous faisons encore très rarement sont tirées entre 150 et 200 exemplaires. C'est vous dire à quel point le marché est limité. Mais c'est une image que je cite toujours, c'est la multiplication d'un exemplaire original. C'est au fond le début pour moi d'une forme d'industrialisation. Avant, j'achetais un Larousse, je le revendais immédiatement et je n'en avais plus. Là, j'ai pu fabriquer 150 exemplaires du Larousse et en vendre 150.
Justement, vous parliez du marché, Michel Slatkin, mais quel est le marché aujourd'hui d'une maison d'édition qui fait des textes aussi, enfin qui propose des textes aussi pointus, aussi réservés aux spécialistes ? Peut-être pas uniquement, mais enfin tout de même, votre catalogue est un catalogue savant, j'allais dire.
J'aimerais peut-être alors repartir de l'idée de réimpression, ce qui vous expliquera mieux mon cheminement actuel. La caractéristique de la réimpression, c'est donc le petit tirage. C'est le petit tirage d'ouvrages recherchés. Comment sait-on qu'un ouvrage est recherché ? C'est là où le métier de libraire d'occasion m'a été très utile, c'est-à-dire que quand j'achetais un exemplaire du Larousse et que je le proposais sur catalogue, j'avais 20, 30 ou 40 commandes dont je ne pouvais satisfaire qu'un exemplaire. Mais je savais qu'il y avait de par le monde 29 ou 30 autres clients intéressés à l'achat du Larousse. Donc j'avais une sorte de cartographie des ouvrages rares à réimprimer, et comme je connaissais bien le marché d'occasion, j'ai petit à petit développé, j'ai réimprimé entre les années 68 ou 69 et les années 90, j'ai réimprimé 8000 volumes qui sont donc tous des ouvrages d'érudition, de haute érudition. Le Larousse en est un, je peux vous en citer énormément. Et j'ai donc mis au point, j'ai mis avec l'aide de nombreux collaborateurs, nous avons mis au point un système qui nous permet de tirer les volumes à petit nombre.
À presque à la demande, au fond.
Le livre à la carte est venu après, mais à cette époque-là, il fallait quand même tirer, surtout pour donner des volumes reliés, c'est-à-dire des volumes qu'on pouvait mettre directement en bibliothèque, il fallait tirer au minimum 200 exemplaires. Mais cette technique des petits tirages m'a petit à petit amené vers l'édition, puisque vous me demandiez où en est le marché de l'édition, d'érudition, c'est un marché excessivement difficile aujourd'hui. Alors qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, une bonne thèse, je vais parler de thèses comme celle de Mozy, l'idée du bonheur au XVIIIe siècle, comme celle de Pintard, le libertinage érudit au XVIIe siècle, tous ces grands ouvrages qui ont été édités à l'époque par Hachette, par Clingsy qui est venu plus tard, par Boivin, par Alcan, tous ces grands éditeurs d'érudition de l'époque, ces livres étaient tirés à 1000 exemplaires et avaient une vie de 1000 exemplaires à vendre pendant sur une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le marché du livre d'érudition en français, qui représente à peu près le tiers du marché du livre d'érudition en anglais, nous permet de vendre à peu près en 3 ou 4 ans entre 200 et 500 exemplaires. Et les chiffres de tirage des volumes d'érudition ont baissé d'une manière drastique au cours des 10 dernières années. La raison en est, à mon avis, que une grande partie de la clientèle était une clientèle américaine. Les Américains ont pratiquement abandonné l'étude du français dans de très nombreuses universités américaines. D'autre part, d'autres pays se sont développés, comme le Japon. On parle aujourd'hui un peu du développement de la Chine, mais ça reste très problématique pour l'instant. Et il y a évidemment le marché français, mais il faut compter qu'il y a dans le monde, à l'heure actuelle, environ 300 centres d'achat, enfin 300 universités ou bibliothèques universitaires qui, d'une manière systématique, achètent les ouvrages d'érudition de pointe. Donc, le tirage de 200 exemplaires permet une première vente de 200 à 300 exemplaires, puis un stock qui s'égrène ou qui se distille en 10 ans par la suite.
Alors, si on a peu de tirages, je suppose qu'il faut avoir beaucoup de titres pour compenser. Est-ce qu'on peut calculer comme cela ?
Non, je dirais qu'il faut calculer un tout petit peu différemment en disant que si on a des petits tirages comme ceux que je vous donne, on doit malheureusement pratiquer de très hauts prix de vente. Et ça, c'est un gros handicap.
Qu'est-ce qu'un haut prix de vente chez Slatkin ?
Écoutez, un haut prix de vente, c'est qu'un ouvrage, disons, de 500 pages doit se vendre à peu près l'équivalent de 80 euros, ce qui est effectivement un prix totalement dissuasif pour le particulier d'aujourd'hui qui, d'une part, ne peut plus acheter des ouvrages, de multiples ouvrages à ce prix-là, et d'autre part, n'a plus la place et l'endroit où les mettre. D'ailleurs, la constitution des bibliothèques particulières à l'heure actuelle devient de plus en plus petite. Et souvent, je me rappelle avoir acheté dans ma vie de libraire d'occasion des grandes bibliothèques. J'avais racheté par l'intermédiaire de Génie la bibliothèque de Pierre Champion, le fils du fondateur de la maison. J'ai racheté quelques très grandes bibliothèques dans le domaine de la linguistique, celle de M. Imps, que vous avez dû connaître. Ces bibliothèques-là, qui étaient constituées par des professeurs d'université ou par des chercheurs ou des érudits, actuellement n'existent plus.
Ils en font don en général, non ? Ici, à l'Institut, on est content qu'ils en fassent don.
Ils en font don, oui, ou ils les vendent. Ça dépend de l'état dans lequel se trouvent les héritiers. Et puis souvent, ça dépend aussi de certaines bibliothèques qui ne les veulent pas. Aujourd'hui, très souvent, j'ai des personnes qui m'offrent encore des bibliothèques en me disant, écoutez, je les ai proposées à la bibliothèque de Genève qui a déjà la moitié des ouvrages, donc qui ne veut pas de doublets, comme ils n'ont plus le droit de vendre des doublets. Par conséquent, ils n'achètent plus et ils ne donnent plus les livres. Mais écoutez, heureusement que tout n'a jamais été toujours donné, sinon il n'y aurait aucun commerce d'occasion, ce serait bien dommage.
Avec Michel Slatkin, nous allons poursuivre dans un court instant cette passionnante conversation sur l'édition d'érudition.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise ? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission libre écoute et libre téléchargement.
Retour dans notre studio en compagnie de Michel Slatkin, l'éditeur genevois, et de Jean Pruvot. Jean Pruvot, tout ce que nous raconte Michel Slatkin, est-ce que cela vous fascine ? Parce que vous-même, vous êtes donc au centre des éditions Honoré Champion, donc vous êtes aussi dans cette mouvance.
Je crois que vous utilisez le mot qui convient, oui, c'est fascinant. Sous plusieurs facettes. La première, c'est peut-être que ma première passion fut aussi de collectionner les livres et les dictionnaires. Bon, et si aujourd'hui les journalistes que je croyais avoir bien exagéré disent que j'ai 10 000 dictionnaires, je pense que je les ai. Et donc j'ai cette même folie de l'ouvrage là sous la main pour pouvoir le lire et travailler. Et je pense à l'instant que je sais déjà où iront mes ouvrages, peut-être chez Champion.
Ah voilà, on a ouvert une piste.
Ça me fascine aussi parce que le monde est petit. Il se trouve qu'une de mes passions a été effectivement d'étudier Larousse, Pierre Larousse, parmi d'autres lexicographes. Et ce qui me passionnait chez Larousse, c'était le fait que ce soit une maison familiale. Le fait que Larousse, alors on ne peut pas parler de Larousse de père en fils, mais cela dit, c'est la famille Larousse quand même qui, jusque dans les années 1940-45, va être à la tête de cette maison. On parlera avec émotion et sans être du tout péjoratif de la bande des cinq, de la famille des cinq avec Gillon, et qui étaient donc des cousins, puisque Larousse et Boyer avaient en quelque sorte, par le biais des enfants, eu des mariages qui avaient assuré à la maison une longue pérennité.
Et chez Champion, vous êtes dans une maison
là,
familiale
on est
aussi.
Quatre générations, donc je dois dire que c'est quelque chose de très émouvant.
Quatre générations chez Slatkin.
Oui. Oui,
parce
oui.
qu'il y a eu donc votre grand-père, votre père, vous êtes la troisième génération. Alors derrière vous, il y a...
Et j'ai deux fils qui ont l'air de s'intéresser et de prendre la succession de ce métier qui est un métier tout à fait extraordinaire.
Oui. Alors vous êtes un homme gâté, alors, Jean Pruvot.
Eh ben oui, je crois aussi que l'avenir est peut-être aux maisons familiales au moment où il y a des grands groupes. et où il est difficile de prendre des décisions sans avoir immédiatement énormément d'enjeux, énormément de calculs, où parfois le commercial l'emporte sur le projet. Et je crois que dans les petites maisons d'édition, amenées à devenir grandes, mais en tout cas, la notion de projet existe bel et bien. La notion d'aventure aussi, la notion de pérennité, de passion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait accepter vraiment de grand cœur d'être directeur éditorial, après avoir été directeur de collection grâce à Bernard Quémada. Et alors, peut-être là aussi un dernier point commun. Il se trouve que l'Académie française, Honoré Champion, Bernard Quémada, on pourrait croire que ce sont des univers différents, Michel Zlatkine, ben tout ça se rapproche beaucoup. Quand en 1975, je rencontrais Bernard Quémada et décidé de faire ma thèse avec lui, une première partie du travail consistait à étudier le service du dictionnaire à l'Académie française. Évidemment, j'étais tout près d'Honoré Champion, qui se trouvait à l'époque, Quai Malaquais, à quelques mètres d'ici, et on sait qu'Honoré Champion aimait particulièrement l'Académie française, et qu'Anatole France faisait partie des académiciens qu'il connaissait avant même qu'il le soit, ayant racheté sa bibliothèque et sa librairie. Et ensuite, mais il se trouve que, travaillant donc aux éditions Honoré Champion comme directeur de collection, me déplaçant pour aller maintenant trois rue Corneille, il y a un square tout à côté derrière l'Académie, qui s'appelle le square Honoré Champion. Donc on voit que la géographie ici est présente, et on sent bien qu'il y a, dans le fond, une espèce d'esprit, non pas de quartier, mais d'esprit d'érudition, qui règne dans certains lieux, et qui, du Quai Malaquais à la rue Corneille, eh bien, rayonne avec l'idée de livre, et on passe par Genève, forcément.
Alors Michel Zlatkine, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la maison d'édition Honoré Champion, et c'était en quelle année ?
C'est en 73 que j'ai racheté les éditions Honoré Champion. J'ai fait mes études à Paris, j'ai fait une licence en lettres à la Sorbonne, j'ai donc habité de 52 à 55. J'y revenais très régulièrement pour acheter des livres anciens, des livres d'occasion. Et puis j'ai eu le privilège de rencontrer les propriétaires de la maison Champion en venant acheter des livres du fonds Champion. Alors c'était très amusant parce que ces propriétaires, donc les personnes qui avaient racheté les éditions Champion à Édouard Champion, puisqu'au fond il y a eu donc le père Honoré Champion qui avait deux fils, Pierre qui a été le grand érudit qu'on connaît, qui a écrit La vie au temps de Villon, Ronsard, qui était vraiment un érudit. Et puis il y a eu Édouard, qui lui a géré la maison tout en étant un homme politique. Il était notamment maire de Deauville. Et je crois qu'à sa mort, et alors là je ne sais pas comment ça s'est produit, ce sont deux Russes qui ont certainement francisé leur nom, qui s'appelaient De Harting, qui ont racheté la maison Champion et qui l'ont au fond mise sous un boisseau après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas sortir de ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore en France, le forfait fiscal. C'est-à-dire que jusqu'à une somme de 500 000 francs français de l'époque, il n'y avait pas de déclaration fiscale à faire, c'est-à-dire on payait une sorte de forfait. Donc la technique des De Harting, c'était de vendre jusqu'au moment où cette somme était atteinte.
Et après,
et à partir
vendait
de
plus.
Ce moment-là, on ne vendait plus rien, sauf si on s'amenait, ce que je faisais régulièrement pendant les week-ends, avec une voiture vide, avec des billets comptants, et alors on pouvait remplir sa voiture, évidemment en achetant ça au noir, et en payant les De Harting sur place. Donc c'est la même manière dont j'ai connu Champion, qui pour moi était une maison prestigieuse, qui avait édité d'abord les classiques français du Moyen-Âge, qui était une petite collection, mais qui a édité tous les grands textes. Ensuite, qui avait édité de grandes collections comme la Bibliothèque littéraire de la Renaissance, la Bibliothèque du Moyen-Âge. C'était des critères pour moi, libraire d'occasion, qui étaient des livres tout à fait fabuleux. Donc j'ai pu en acheter un certain nombre directement, comme je vous l'ai indiqué. Et en 73, il s'est trouvé que cette maison était peut-être à vendre. À cette époque-là, j'étais en plein dans la fabrication de mes réimpressions et je cherchais un endroit en France pour avoir une vitrine et surtout pour faciliter l'acquisition par les particuliers et les bibliothèques françaises de ces réimpressions qui franchissaient très difficilement la frontière à cause du contrôle des changes et de la douane. Et donc j'ai eu l'occasion effectivement de racheter les éditions Honoré Champion à Monsieur et à Madame de Harting, mais pas du tout dans le but d'en faire une nouvelle maison d'édition, simplement dans celui d'avoir un pignon sur rue à Paris et en France. Il y avait à cette époque-là comme directeur de collection pour le Moyen-Âge Félix Lecoy. Donc nous avons continué les éditions concernant le Moyen-Âge, mais nous n'avons pas repris la tradition de l'édition proprement dite. Et ce n'est qu'à partir de 1990 à peu près que, sous les conseils de quelqu'un, nous nous avons, je dirais, remis en activité les éditions Honoré Champion en recréant de nouvelles collections sur la base des anciennes.
Michel Slatine, est-ce que vous craignez le développement justement du numérique et de la mise en informatique des livres par rapport à des réimpressions ?
Le domaine des réimpressions est terminé. C'est-à-dire que tous les documents fondamentaux de la littérature française que je connais, je les connais assez bien, sont réimprimés. Donc de toute manière, cette facette de notre métier est une facette qui est fini aujourd'hui. Maintenant, la question que vous posez est une question extrêmement importante et intéressante. Oui, je crois qu'il faut craindre, et d'ailleurs les effets en sont bien là, l'apparition du numérique, l'apparition de la digitalisation de tous les grands textes et leur utilisation sur Internet. Je crois cependant que le papier ne disparaîtra pas. Et je me rends compte qu'énormément de bibliothèques veulent avoir les deux supports. Avoir le support papier dont on est à peu près persuadé qu'il restera, et d'autre part avoir le support numérique essentiellement pour pouvoir faire des recherches plus rapides. Si vous reprenez l'exemple du Larousse et que vous cherchez le mot « opéra », je crois qu'il est cité à peu près 6000 fois au total dans le Larousse.
Donc l'informatique va être un outil formidable.
Grâce à l'informatique, si vous voulez savoir partout où Pierre Larousse parle de l'opéra, vous appuyez et en quelques secondes, vous avez toutes les occurrences qui apparaissent. Cependant, je crois qu'autant pour tout ce qui est encyclopédie, probablement même dictionnaire, l'informatique va rendre des services énormes. De même, je crois que, par exemple, pour quelqu'un qui travaille sur Montaigne, si vous vouliez consulter en étant japonais l'édition originale des Essais de Montaigne de 1580 et que vous alliez à la Bibliothèque nationale, c'était très difficile. D'abord, il faut aller à la réserve, il faut trouver une place, on vous donne le livre, j'exagère un peu, en vous demandant de le toucher avec des gants. Vous devez faire excessivement attention. Et par conséquent, si vous voulez faire une recherche étendue sur Montaigne, vous pourrez aller consulter l'édition originale, mais si vous voulez consulter en même temps celle de sa filleule, de Gournay, 1588, si vous voulez consulter celle de 1595, où Mademoiselle de Gournay a enlevé tout un certain nombre d'obscénités ou d'obscénités telles qu'elle l'imaginait des volumes, à ce moment-là, vous vous trouvez devant des complications de consultation extrêmement grandes. Et là, l'informatique rend des services énormes, puisqu'il existe aujourd'hui une possibilité de consulter en ligne toutes les éditions de Montaigne, depuis la première 1580 jusqu'à la toute dernière, qui est celle de Villet, enfin qu'on cite continuellement, et ça dans un sans vous déplacer, vous habitez Tokyo, vous avez ça sur Internet, ou vous commandez un CD qui comporte tout Montaigne en électronique. Donc je pense que pour les chercheurs, l'électronique est un élément excessivement important. Par contre, je trouve que lire les essais de Montaigne sur un écran, et même sur l'écran que Sony propose aujourd'hui, qui est un écran digital, où vous pouvez avoir l'édition de 1580, je trouve que la lecture n'en est pas très agréable. Mais il ne faut pas oublier que je suis un homme de la vieille génération, c'est-à-dire du papier, et que peut-être que quelqu'un qui est de la génération de l'électronique contredira totalement cette sensation que j'ai.
Mais il y a la lecture, il y a aussi le toucher, puis il y a aussi le livre qu'on a sous les yeux dans sa bibliothèque. Enfin, et peut-être c'est irremplaçable, enfin l'avenir le dira.
Je crois, enfin en tant qu'homme du métier, qu'il y a trois métiers qui allient à la fois ce que je vais appeler le côté commercial, le côté esthétique et le côté intellectuel. Ces trois métiers sont pour moi la librairie, évidemment, l'antiquité, les meubles, les statues et les tableaux. Et je crois que le plaisir de voir un Van Gogh sur Internet est certainement un plaisir et même donnera des détails qu'on ne pourra jamais voir sur le tableau en étant directement en face de lui. Mais je pense par contre que la sensation qu'on a en se trouvant devant un tableau de Van Gogh ne peut pas se comparer à celle qu'on a sur un écran. Et pour le livre, c'est évidemment la même chose.
Jean Prévost, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point ?
Je partage évidemment tout à fait ces points de vue. Je crois qu'il y a effectivement d'un côté la recherche et d'autre côté le plaisir. Alors on a tendance à dire la recherche c'est uniquement l'informatique et le plaisir évidemment c'est le plaisir du toucher. Mais parfois, du côté de ce qu'on pourrait imaginer être le plaisir de toucher les ouvrages, il y a aussi des témoignages. Et je pense à mes 100 petits Larousse, puisque je les collectionne depuis 1905, depuis la première édition. Et à l'intérieur de ces dictionnaires se trouvent cachées des feuilles, se trouvent des annotations, se trouvent parfois des corrections. Et lorsque on consulte ces ouvrages, on ne peut s'empêcher d'y trouver finalement des informations sur l'époque aussi, à travers les annotations qui y sont faites. Et du coup, ça, je crois qu'il y a aussi, à travers l'informatique, quelque chose qu'on perd, c'est peut-être la mémoire des gens qui ont touché ce papier, qui ont écrit, qui ont annoté. Il est très étonnant de voir combien tous les intellectuels, mais aussi nos étudiants, ont du mal à lire un ouvrage sans avoir un crayon à la main en l'annotant. Bon, et quand ce sont les annotations d'Anatole France, ou les annotations, je ne sais pas, de Bernard Quémada, ou d'Alain Rey, ou les annotations des académiciens sur les dictionnaires, c'est d'une richesse excessive. Et là, il y a des travaux qu'on peut faire. Et Champion publie énormément de choses de ce type. Hein. Je crois que sur Claudel, là, il y a en ce moment des choses qui se font aussi sur des annotations qu'on ne peut pas mettre pour le moment sur informatique. Qui plus est, il est probable que tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'informatique est extrêmement riche pour la consultation, mais légèrement inquiétant pour la mémoire dans quelques décennies. Je dis toujours qu'il m'est facile de faire travailler des étudiants sur le trésor de Nico en leur montrant, puisque j'ai la chance de l'avoir, et en travaillant sur un CD-ROM ou sur Internet. Eh bien, il m'est impossible de faire travailler un étudiant sur un des tout premiers dictionnaires sur support informatique qui était, je crois, chez Hachette, qui s'appelait Aziz, qui était sur disque souple de 5 pouces et demi. Les machines n'existent plus, les disques se sont effacés. Et donc, il y a aussi le mauvais versant de l'informatique.
Oui, personne ne sait quelle sera la durée de ces supports informatiques. Alors, il faut espérer qu'elle sera très longue, mais on connaît la durée du papier puisqu'on a des manuscrits, on a des incunables.
Donc et que sauf incendie, il n'y arrive pas grand-chose.
Il y a plus de 500 ans. Simplement, les disquettes informatiques, les CD, on n'en sait rien. Et il y a des bruits qui courent comme quoi c'est malgré tout destructible.
C'est-à-dire on souhaite tous que l'électricité soit un bien éternel.
Ouais, tout à fait.
Michel Slatkin, comment envisagez-vous l'avenir des éditions Slatkin, compte tenu que le marché est très restreint, comme vous l'avez dit, et que vous avez fini, au fond, de publier, de réimprimer les grands textes fondamentaux? Alors, quel est l'avenir qui se dessine pour cette maison d'édition?
L'avenir, c'est de continuer à publier les ouvrages de ce que j'appelle la haute érudition. Et le pari, c'est d'arriver à vivre, commercialement parlant, avec des tirages de plus en plus réduits. C'est un pari que j'essaye de relever, qui pour le moment est relevé. Le sera-t-il à l'avenir? Je ne sais pas. Il faut espérer, puisqu'on est quand même dans une période où, malgré tout, la culture de masse disparaît de plus en plus. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, dans l'édition dont nous ne parlons pas du tout, qui est l'édition grand public, on dit souvent en riant que publier un bon volume, c'est être assuré d'un échec. Publier un mauvais volume, c'est d'être sûr qu'on le vendra bien. Dans le domaine de l'érudition, on n'a pas ce problème-là. Mais on a malgré tout ce problème de raréfaction de la clientèle. Et il est évident qu'il faut trouver la manière de publier de bons livres. Publier de bons livres, ce n'est pas simplement mettre une disquette dans une machine et puis en sortir des feuilles, c'est le mettre en page, c'est établir un index, c'est demander à l'auteur de le corriger, de le relire. C'est toute une préparation de ce qu'on appelle le pré-presse qui est lourde et qui coûte cher. Et il est évident que plus le nombre d'exemplaires publiés est petit, plus le coût initial est divisé par peu d'exemplaires et par conséquent le prix du livre augmente. Je vous ai cité un livre de 500 pages qui est vendu 80 euros, ce qui me semble déjà très cher. Il est évident qu'on ne peut pas le vendre 200 ou 300 euros, sinon on aura 3 clients et on ne pourra plus le faire. Donc il faut essayer de plus en plus d'utiliser les techniques qu'on a, et notamment les techniques numériques, pour se préparer à un marché qui peut-être passera de 300 à 200. Il est évident qu'une espérance inférieure à 200 exemplaires de vente condamnerait complètement le métier.
Oui, je comprends. Mais on ne va pas terminer cette émission sur des propos un peu tristes ou inquiets, n'est-ce pas ? On va plutôt au contraire se dire que le marché de l'occasion, c'est tout de même le marché du livre d'occasion que vous connaissez bien, parce que je crois que vous avez été formé dans ce métier-là, le marché de libraire d'occasion. Est-ce que c'est un métier, au contraire, qui se développe, lui ?
Pas du tout.
Pas du tout. Il n'y a pas de plus en plus d'acheteurs d'occasion.
Pas du tout. À l'heure actuelle, le métier de libraire d'occasion que j'ai bien connu, que j'ai pratiqué pendant longtemps, que mon père et que mon grand-père ont pratiqué, est véritablement un métier en perdition. Et ça, alors, Internet y est pour beaucoup. Je vous donne un exemple. Dans une bibliothèque que j'ai achetée il y a très peu de temps, je trouve un petit ouvrage sur les tapis persans, édité par un éditeur new-yorkais en 1975. C'est un ouvrage qui comporte une cinquantaine de planches en couleur avec des explications sur les tapis. Je me demande quel prix je dois mettre ce livre. Je ne connais pas le prix de l'éditeur, le prix de vente. Je suppose qu'il est épuisé. Je me dis, je vais le mettre l'équivalent de 40 euros. Et puis, par curiosité, je vais sur Internet. Je tape sur AB Book, qui est le plus grand vendeur, la plus grande réunion de livres d'occasion. On parle de 10 millions de volumes qui sont offerts à la vente. Et je tape l'auteur et le titre de ce livre. Et je trouve, à ma grande stupéfaction, une offre de 80 libraires de par le monde qui possèdent ce livre et qu'ils proposent à la vente. Le prix de vente varie de 1 euro à 100 euros pour le même livre. Il n'y a aucune différence, tous les exemplaires sont complets. Simplement, vous aviez une variété de prix telle qu'aujourd'hui, quel est le prix du marché de ce livre ? Je suis incapable de vous le dire. Le problème pour le libraire d'occasion que je suis de mettre ce livre dans un rayon, c'est condamné à ce qu'il y soit toujours dans 100 ans, puisque qui va venir dans ma boutique de libraire pour me demander ce livre, étant donné qu'il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et en trouver 100 exemplaires. Ne reste plus que votre choix à faire. Vous le payez 1 euro ou 100 euros. Et pourquoi le payez-vous 1 ou 100 ? Je n'ai pas de réponse. Donc, je pense qu'effectivement, le métier de livre ancien, de documentation, est un métier condamné. Il restera toujours la petite bouquinerie, les livres sur les quais qu'on voit depuis votre merveilleuse
vue
sur la
merveilleuse
vue. Et naturellement, le grand livre, le beau livre, il est clair qu'un bel exemplaire des Essais de Montaigne de 1580 trouvera toujours preneur. Mais la librairie de documentation, à mon avis, est elle aussi absolument en fin de vie. Ce n'est pas du tout pour terminer, si nous terminons là, sur une note pessimiste, c'est simplement pour montrer qu'il y a une évolution. Et j'ai l'impression que comme au Moyen-Âge, où il y a eu une longue période pendant laquelle les seuls endroits, au fond, qui ont perpétué la culture étaient les couvents. On s'occupait ou on transcrivait des manuscrits. Et cette espèce de maillon qui a tenu durant tout le Moyen-Âge a ressurgi et a bourgeonné avec la Renaissance. Et je suppose qu'il est possible, mais quand, je suis bien incapable de vous le dire, qu'un jour le livre tel qu'on l'a connu retrouvera sa place. Mais pour le moment, on est dans un no man's land très difficile à décrire.
Alors j'espère que vous êtes un peu prophète, Michel Slatkin. En tout cas, je vous remercie infiniment des informations que vous nous avez apportées dans cette émission sur à la fois le métier de réimprimeur et le métier de libraire d'occasion. Merci à vous, merci Jean Pruvot. Et puis je rappelle à nos auditeurs, non seulement que Jean Pruvot anime une émission sur les mots dans Canal Académie, mais qu'il a aussi fait une grande émission sur les éditions Honoré Champion. Merci à vous deux.
Merci.